Voilà, frères et sœurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous pour ce message. J'espère que ce ne sera pas un bruit assourdissant, comme disait Guillaume. La prédication, c'est vrai que parfois ça peut être un bruit assourdissant, mais j'espère vraiment que ce qui est important, c'est que cette parole de Dieu nous rejoigne. Elle nous rejoint de multiples manières, on l'a vu avec ce que Guillaume nous a dit. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler effectivement de pêche. Guillaume a déjà parlé de poisson, de pêche. On continue un peu dans ce thème. Je vous invite donc à méditer dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Matthieu 4, 12 à 23. Ayant appris que Jean le Baptiste, avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Puis, abandonnant Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Il les appela, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Pardon, je dois juste... Voilà, Marc, s'il te plaît, voilà. Voilà, nous vivons une époque troublée, la semaine a été troublée, une époque où sévit l'incertitude, l'angoisse, la violence, une époque voilà, où sévit aussi la débauche, les attentats, la guerre, pas très loin de chez nous, en Europe, avec toutes ces atrocités. Une époque aussi où certains d'entre nous ont de lourds fardeaux à porter. Ce matin, nous avons pris plusieurs temps de prière pour des personnes de notre communauté qui en avaient besoin. Voilà, nous avons besoin ce matin de retrouver la paix dans la présence du Seigneur. Et nous constatons que le Seigneur, précisément, est venu nous rejoindre dans des situations qui n'étaient pas simples. Nous constatons avec ce passage de l'Évangile que l'époque de Jésus aussi était dramatique. Jésus apprit que Jean avait été livré. Voyez, pour Jésus et ses disciples, les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'actualité n'avait rien de réjouissant. Or, c'est au moment où le pouvoir politique met en prison le plus grand des prophètes, Jean le Baptiste, c'est au moment où Hérode Antipas le fait taire que Jésus décide de prendre le relais. Il faut qu'une lumière se lève sur ceux qui se trouvent dans le sombre pays de la mort. Alors bien sûr, Jésus a besoin de courage pour entrer dans sa mission. Quand Matthieu nous dit qu'il se retira en Galilée, Il sous-entend peut-être que Jésus prit le temps d'une petite retraite, je ne parle pas de la retraite à 60 et quelques années, d'une petite retraite ici dans la prière et la solitude, comme j'en ai parlé dimanche dernier. Jésus sait fort bien qu'il se lance dans une aventure qui le conduira lui aussi à un destin tragique, à la souffrance et à la croix. Et Matthieu, en parlant de Jean le Baptiste qui a été livré, utilise le même mot que pour la passion de Jésus. Lui aussi, Jésus, sera livré au grand prêtre et au scribe. Alors Jésus nous appelle à le suivre, nous l'avons chanté avec enthousiasme tout à l'heure. Il nous appelle à le suivre à notre tour, dans un monde où il n'est pas facile d'être son témoin. Nous avons chanté « Qu'importe, j'irai ». Eh bien, nous allons voir ce que nous dit le Seigneur aussi à ce sujet. D'abord, ça déménage. Il nous parle d'un déménagement. Avant de commencer sa nouvelle vie de prédicateur, Jésus déménage. Abandonnant Nazara, une manière pour Matthieu de nous parler de Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer. Quelle chance, habiter au bord de la mer. Non, Jésus ne part pas en vacances, au bord du lac de Galilée. Il quitte son petit village pour une bourgade plus importante. Et là, il y rencontrera, il y fera aussi des rencontres inattendues, il y rencontrera un nouveau monde, de nouvelles personnes auxquelles l'Évangile est destiné. Capharnaüm, c'est la ville de l'apôtre Pierre. Des fouilles archéologiques ont découvert, semble-t-il, les traces de ce qui pourrait avoir été la maison de Simon-Pierre, le modeste pêcheur. Alors c'est là que Jésus va habiter. Vous voyez, elle a été reconstituée à côté. Si vous avez envie de vous faire construire une maison qui ressemble à celle de Jésus, vous faites ça. Bon, c'est pas très adapté aux chutes de neige, mais... Vous voyez que contrairement à ce que l'on pense souvent, Jésus n'était pas toujours un prédicateur itinérant. Il avait sa maison, il avait son chez-lui, il en avait besoin pour se reposer, pour recevoir des visites et puis aussi pour mieux repartir ensuite. La vie chrétienne est un chemin, et Guillaume nous a parlé de ce chemin parfois très étonnant. Un chemin à l'image de la vie des disciples qui suivaient Jésus. Elle nous invite parfois, la vie chrétienne, à partir, à quitter nos zones de confort. Le témoignage de Guillaume nous l'a bien montré. Mais la vie chrétienne se déroule aussi, la plupart du temps, il faut bien le dire, en tout cas en ce qui nous concerne, dans la banalité du quotidien, dans nos foyers, nos appartements, nos maisons, avec nos familles, nos amis, nos collègues. Eh bien, c'est aussi là que le Seigneur nous rejoint et nous demande de vivre notre foi. Capharnaüm était une ville frontière. Alors, je dégaine mon antenne. Était une ville frontière, vous voyez, Capharnaüm, là, avec la Décapole ici et la Galilée. Je fais un peu le prof, hein. Ça me rappelle des bons souvenirs. Capharnaüm était une ville frontière avec des douaniers et des soldats romains. C'était un lieu de passage et de mélange de populations, une étape importante vers la grande route de la mer, ici, qui longeait la Méditerranée, et une grande route aussi qui reliait Damas, alors Damas c'est un peu plus au nord, ici à Césarée. Damas c'était la porte du désert, on passait par Capharnaüm et on arrivait à Césarée, la porte de la mer, la porte de la Méditerranée. La Galilée était donc une région où passaient des caravanes de marchands, de voyageurs, un brassage de gens de toutes sortes, comme une gare. Jésus ne déménage donc pas sans raison. Son choix a une signification, et Matthieu nous dit laquelle. Il rejoint la terre de Zabulon. La terre de Nephtali, c'était le nom de deux tribus d'Israël. la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. En citant ainsi le prophète Ésaïe, Matthieu suggère que Jésus se soumet à la volonté de l'Éternel. Le salut en Jésus-Christ va s'accomplir en conformité avec les promesses qui avaient été faites à Israël. Il y aurait ainsi 66 citations de l'Ancien Testament dans le seul évangile de Matthieu. Voilà une manière pour Matthieu de nous montrer que s'accomplissent les paroles des prophètes. Jésus sait ce que cela lui coûtera, mais il le fait parce qu'il est venu accomplir le dessein de Dieu, en faisant briller une grande lumière sur ceux qui se trouvent dans les ténèbres. L'allusion à cette Galilée des nations ici, est une manière de nous dire que l'évangile est pour tous. Jésus est venu pour que tous, toutes les populations de toutes les nations, toutes les classes sociales puissent entendre la bonne nouvelle. En s'établissant à Capharnaüm, en Galilée, il choisit délibérément d'aller à la rencontre des personnes, d'une certaine manière, les plus éloignées de Dieu. Parce que Jésus aurait pu choisir de commencer sa mission à Jérusalem ou en Judée. Vous voyez, c'est beaucoup plus aussi. Voilà la Judée, Jérusalem, la capitale religieuse, c'est là qu'il y a le temps. La Judée, la région pure, là, on n'a pas de mélange de races. On a le peuple juif dans toute sa pureté. Jésus aurait pu choisir d'aller dans cette région. Mais il vient habiter Capharnaüm, cette contrée du Nord, bienvenue chez les Ch'tis, ouverte aux influences païennes, méprisée par les autorités juives. Et là, nous savons que même à Capharnaüm, il touchera le cœur d'un centurion romain. On le voit dans l'évangile de Matthieu un peu plus loin. Alors, dans un monde de violence, voilà une bonne nouvelle. Un germe de justice est semé au milieu des païens, celui de la justice de Dieu, capable de renouveler la terre. Nous nous lamentions, enfin je me lamentais, au début de ce message sur l'état du monde. Nous considérions avec inquiétude l'évolution de notre société, et beaucoup de gens vont dans la rue ces jours-ci parce qu'ils sont inquiets. Notre société n'est-elle pas simplement une Galilée des nations, c'est-à-dire une manifestation contemporaine du monde dont Jésus est le sauveur? Nos contemporains ne sont pas pires que les gens de Capharnaüm, ils ont besoin d'un sauveur. Il paraît que Mélenchon a dit hier ou avant-hier « Vive la vie, abat la mort ». Par rapport aux manifestations et aux possibilités de vivre sa retraite. Vive la vie, abat la mort. Eh bien, celui qui donne la réponse, c'est précisément Jésus. Vive la vie, abat la mort. Je ne suis pas sûr que Mélenchon pensait à lui, mais en tout cas, c'est vers eux, c'est pour eux que Jésus est venu. Et c'est au milieu d'eux qu'il nous envoie pour porter justement cette bonne nouvelle, la joie de son royaume. Au chapitre suivant de l'évangile de Matthieu, Jésus s'écrit « Heureux ceux qui ont soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui font œuvre de paix, heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez, c'est dans ce monde qu'il nous appelle à devenir à sa suite des petites lumières rayonnantes de sa vie nouvelle. Pour le peuple qui se trouve dans les ténèbres, Jésus nous demande que votre lumière brille aux yeux des hommes. Non par orgueil, non pas pour dire on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts, mais tout simplement parce que c'est Jésus qui décide de venir vivre en nous et d'avoir besoin de nous. Après le déménagement, le travail. Jésus, quant à lui, a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Il reprend sans en changer un mot la prédication de Jean le Baptiste. En sa personne, le règne de Dieu est à notre porte, au milieu de nous, et il est urgent de l'accueillir. Plus tard, au moment de la Pentecôte, les disciples de Jésus reprendront le même message. « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, à ce moment-là, le salut aura été accompli dans la mort et la résurrection de Jésus. Le Seigneur aura manifesté sa victoire pour établir son règne dans le cœur des croyants par la puissance de son esprit. Bien aimé le petit dessin avec le petit oiseau dans le cœur là, qui chante. Manière de dire, voilà, cette colombe du Saint-Esprit est venue habiter notre cœur. Alors désormais, un nouvel avenir s'ouvre pour chacun de nous. Jésus nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors vivez en enfant de lumière. Mais nos cœurs s'ouvriront-ils à son règne ? Convertissez-vous, dit le Seigneur. Par la foi, nous avons décidé, et nous l'avons chanté avec enthousiasme tout à l'heure, nous avons décidé de remettre notre existence entre les mains de Jésus. Mais ne reste-t-il pas encore des retournements importants à faire en nous ? Confessons-le. Nous avons toujours besoin du pardon et de la grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas spontanément tournés vers le Seigneur. Nous mettons une certaine mauvaise volonté à lui obéir, à lui appartenir, à travailler pour lui. Nous avons besoin de réentendre l'appel de Jésus en Galilée. Convertissez-vous pour que le Seigneur règne vraiment dans nos vies, pour qu'advienne son royaume là où nous sommes. Alors, quelle est concrètement la conversion que Dieu me demande ce matin, en ce moment? Soyons reconnaissants aussi, parce que c'est Jésus lui-même qui nous appelle. Et quand il nous appelle, Jésus, il vient nous chercher pour nous rendre capables de le suivre. Un travail en collaboration. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, nous dit l'Évangile, il vit deux frères. Il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le premier acte de la mission publique de Jésus, selon Matthieu, ce n'est pas un miracle, mais c'est un appel puissant, porté par la voix de Dieu lui-même. Vous voyez, l'aventure de l'Église chrétienne, qui se poursuit encore aujourd'hui, des centaines d'années après, a commencé avec cet événement, ce moment de la vie de marins pêcheurs qui faisaient leur travail quotidien. Jésus appelle ses apôtres en plein travail professionnel. Notre vocation chrétienne s'épanouit encore une fois dans la vie de tous les jours. C'est à partir de là que Jésus nous demande de le suivre. C'est ainsi que Martin Luther, donc qui a été à l'origine de la réforme protestante, Martin Luther écrivait en 1520, « Un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier. Chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable, afin que de la sorte, ces tâches multiples concourent à un bien commun. Pour le plus grand bien de l'âme et du corps, tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service. » Alors ça vous paraît peut-être évident d'entendre ça, mais ça ne l'était pas en 1520. ça ne l'était pas au XVIe siècle. C'était une véritable révolution que de rappeler que l'on pouvait devenir saint sans entrer dans un couvent, qu'on pouvait devenir saint en étant savetier ou forgeron. C'est une révolution pourtant qui trouvait sa source dans l'appel que Jésus avait adressé à ses premiers disciples. Voilà, venez à ma suite, vous les pécheurs, et c'est à partir de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de votre travail, de vos activités de tous les jours, que vous allez devenir les témoins du royaume de Dieu. En prenant l'initiative d'appeler Pierre, André, Jacques et Jean, Jésus savait parfaitement où il voulait en venir. Il engageait ses hommes à le suivre, afin qu'eux-mêmes aillent en chercher d'autres. « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il laissait ainsi entendre que sa mission et la mission de ceux qui le suivront seraient en faveur de tous les êtres humains. Tous seront susceptibles d'entrer dans son filet. Nous avons de magnifiques paraboles dans l'Évangile qui parlent de ce filet qui ramasse les poissons, les bons comme les mauvais. Mais il convient d'aller les pêcher, ces poissons, d'aller les pêcher comme on ramasse les poissons dans un filet. Suivre Jésus, même si c'est une mission qui peut se vivre dans nos activités quotidiennes, n'est pourtant pas une mission comme d'autres. Ce n'est pas comme si on suivait un maître spirituel, un homme politique, un chef d'orchestre ou un général. Dans la suivance de Jésus, il y a une autre dimension. Elle nous fait participer à l'œuvre de salut de Dieu. Elle nous fait entrer dans le mouvement même du Seigneur. L'apôtre Paul écrit cette parole, moi, qui m'étonne toujours. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes des gens qui faisons avec, qui œuvrons avec Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Vous rendez-vous compte que chacun de vous est collaborateur de Dieu, ouvrier avec Dieu. Et c'est pourquoi l'appel des premiers disciples présente cet aspect si extraordinaire. Ce ne sont pas Jacques et Jean, ni Pierre, ni André qui ont cherché Jésus. Ils n'avaient rien demandé. C'est lui, le Seigneur, qui en a pris souverainement l'initiative. L'appel est radical. Venez à ma suite. Et leur réponse sera radicale, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Quand Dieu nous donne tout en son Fils Jésus-Christ, il nous reste à tout lui donner. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre vie lui appartient. Jésus le précisera. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Telle est la foi, frères et sœurs. La foi, c'est cette réponse enthousiaste et obéissante à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous demande de le suivre et qui met en nous, par son esprit, la possibilité même de le suivre. Matthieu termine notre passage en résumant l'activité de Jésus. Parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus proclame l'Évangile. L'Évangile qui est une bonne nouvelle. Littéralement, Jésus crie. Jésus crie son joyeux message de paix. C'est très fort. Voyez, l'actualité est beaucoup plus réjouissante qu'elle n'en a l'air. Parce que, en Jésus, nous le savons, Dieu règne sur le monde. Jésus enseigne également. Le mot utilisé ici évoque une activité plus développée, plus professorale, si vous voulez. L'activité d'un rabbin. entouré de personnes auxquelles il livre ses paraboles, ses instructions, ses paroles sur l'amour en Dieu, sur le pardon et la vie éternelle. Nous avons besoin de prendre le temps, nous aussi, de cet enseignement à travers les paroles de la Bible et dans la vie de l'Église. Ce matin, quelqu'un a acheté une Bible ici à l'Église. Voilà, c'est magnifique, avec ce désir de se nourrir de cet enseignement de Jésus, comme cette personne qui t'a donné sa petite Bible à 1,50 € en te prenant en stop. Et dans cet enseignement, tu as découvert aussi le chemin de la vie. Et puis enfin, Jésus guérit. Jésus témoigne de l'infinie tendresse du Père et d'un renouvellement possible de la création. Lui-même a vaincu la mort. Abba la mort, vive la vie en Jésus. Lui-même a vaincu la mort. Ici, il se laisse émouvoir par les souffrances qu'il rencontre. Il discerne de quoi chacun a besoin. Il connaît la foi de ces gens, le désir profond de leur cœur, la volonté du Père à leur égard. Alors, frères et sœurs, continuons notre chemin dans la paix de sa révélation. Sa parole dit notre salut. Son esprit nous visite, nous illumine, nous transforme. Il prend soin de nous. Il nous prend avec lui pour prendre soin à notre tour de notre prochain avec la tendresse et la foi qui l'animait, lui Jésus. Fais de nous, Seigneur, tes collaborateurs pour que le monde reconnaisse ta lumière. Amen. Et Jésus nous invite maintenant même à partager son repas. Attends, je vais juste recompter combien nous sommes.